Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. L'énergie comme clé de lecture du monde, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui afin de mieux comprendre les bouleversements que connaît le secteur. Ils sont nombreux, ces bouleversements, et d'ordre différent, à commencer par ce début de revirement dans la politique énergétique de Washington, avec l'autorisation donnée à deux sociétés texanes d'exporter du pétrole brut, certes ultra léger, mais c'est une première depuis 40 ans, depuis 1973 très exactement, date à laquelle le gouvernement américain avait interdit l'exportation de pétrole non raffiné en réponse à la mise en place par les pays arabes d'un embargo sur les exportations d'or noir vers les États-Unis, accusés de soutenir Israël lors de la guerre du Kippour. Regard sur l'impact de cette décision sur le marché des hydrocarbures, alors que les États-Unis sont devenus le premier producteur de gaz au monde et bientôt le premier producteur de pétrole, une donnée totalement inimaginable il y a encore quelques années. Révolution sur la planète énergétique, quelles répercussions sur la géopolitique? C'est ce que nous allons voir avec nos invités en duplex depuis les studios de la radio-télévision belge à Bruxelles. Samuel Furfari, professeur de géopolitique à l'Université libre de Bruxelles. Dernier ouvrage, Vive les énergies fossiles, la contre-révolution énergétique, paru aux éditions Texis. Bonjour.
Bonjour Madame Chatin et bonjour aux auditeurs.
Et Thierry Brosse avec moi en studio, analyste et expert auprès de la Commission européenne, auteur d'un ouvrage After the US Shale Gas Revolution, après la révolution de gaz de schiste américaine, aux éditions Technip. Bonjour Thierry Brosse.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Samuel Furfari, cette décision des États-Unis d'autoriser l'exportation du pétrole brut, c'est une révolution. Est-ce aussi l'illustration de ce que vous avancez dans votre ouvrage lorsque vous parlez de revanche des énergies fossiles, revanche sur les énergies renouvelables, alors que le monde vit depuis 40 ans sous la hantise des menaces énergétiques? Il y a 5 ans, les experts pensaient que nous étions proches du pic pétrolier et du pic gazier. Ce n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui, Samuel Furfari?
En effet, ce n'est pas du tout d'actualité, mais il y a longtemps que ce n'est pas d'actualité. C'est dans l'imaginaire collectif, depuis les chocs de 73 et 79, que tout le monde pense qu'il n'y a plus de pétrole. Le Club de Rome nous avait endormi complètement dans les années 70 avec cette théorie fallacieuse de la fin du pétrole. On continue à perpétrer cela et nous sommes complètement aujourd'hui dans un monde différent. Le monde n'est jamais linéaire. Pourquoi voudriez-vous que le monde soit linéaire en matière d'énergie et en l'occurrence en matière de pétrole? Non, il y a une rupture totale avec l'imaginaire collectif de la fin du pétrole. Nous sommes dans une ère d'abondance de pétrole et surtout de gaz, comme on va sans doute le montrer pendant cette émission. Ce qui fait que les États-Unis peuvent commencer à changer leur géopolitique et y compris, comme vous l'avez dit, commencer à exporter du pétrole ou une espèce de pétrole. C'est quand même marginal pour l'instant parce que les États-Unis n'ont pas suffisamment de pétrole pour pouvoir en exporter, mais comme dans tout dans le monde, il y a toujours du commerce. On importe un peu, on exporte beaucoup, ou bien on exporte peu et on importe beaucoup. Il y a toujours un peu de commerce dans tout. Et en l'occurrence, c'est vrai que pour l'instant, les États-Unis doivent réfléchir à leur abondance d'hydrocarbures. Comment faire pour gérer mieux cette abondance d'hydrocarbures qu'il y a, non pas seulement aux États-Unis, mais dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, Canada, Mexique et États-Unis. Et donc, Brésil. Ça fait partie de ces gros ensembles, cette décision de commencer à exporter un pétrole léger. Et si vous voulez bien, tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne sur cette notion de pétrole léger, parce que ça crée des grosses difficultés pour le raffinage européen.
Alors on en parlera, Thierry Brosse, je me tourne vers vous. Samuel Furfari évoquait l'idée d'un imaginaire collectif autour de la pénurie de pétrole. Et finalement, la raison, c'était une question de prix.
Alors, revenons un petit peu sur la révolution du gaz de schiste aux États-Unis. Effectivement, grâce à cette révolution, les Américains sont devenus, comme vous l'évoquez, le premier producteur mondial de gaz dès 2010. Et ils vont devenir un exportateur de gaz sous forme gaz naturel liquéfié par bateau à l'horizon 2015-2016. Et peut-être, à la fin de cette décennie, un grand exportateur de gaz naturel liquéfié, le deuxième ou le troisième au monde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sur le fait qu'on est passé de cet ancien paradigme du pic des hydrocarbures à cette abondance, elle a une conséquence économique très importante. Dans l'ancien monde, si je peux me permettre, nous experts avions comme valeur terminale de la dernière goutte de pétrole une valeur infinie, c'est-à-dire seul l'homme ou la femme la plus riche aurait pu remplir le dernier son réservoir pour faire son dernier voyage en voiture. Dans le nouveau monde d'aujourd'hui, la valeur terminale de la dernière goutte de pétrole ou de la dernière molécule de gaz est nulle, puisqu'on a trop de pétrole et trop de gaz, et en plus, si on ne veut pas avoir des conséquences climatiques trop graves, on sait qu'une partie de ce pétrole et qu'une partie de ce gaz restera en terre. Et donc, effectivement, la conséquence ou les conséquences géopolitiques que vous évoquiez, il faut aussi les lire avec cet imaginaire-là et cette économie-là, qui est que, effectivement, la réserve pétrolière ou la réserve gazière, elle n'a plus un prix infini ou un prix qui augmente avec le temps, elle a plutôt un prix qui va baisser avec le temps, et c'est comme ça qu'on peut aussi voir ce qui se réalise ces derniers mois, comme par exemple le très grand contrat gazier qui a été signé entre les Chinois et les Russes, puisque ils ont mis 10 ans à aboutir à la signature de ce contrat, et je pense que pendant une partie de ces 10 années, les Russes pensaient que le prix allait augmenter. Et puis effectivement, dans ce nouveau monde aujourd'hui, eh bien, si on ne signe pas aujourd'hui, demain le prix risque d'être plus bas.
Alors, la preuve en est que si nous avions été dans l'ancien paradigme, avec les événements qu'il y a actuellement au Moyen-Orient, le prix du pétrole aurait explosé. Non seulement avec le conflit du Hamas, mais avec ce qui se passe dans la
Irak.
Création de ce califat en Irak. Si c'était vraiment un problème de pénurie d'énergie, ben, nous serions avec un prix du pétrole à 200 dollars le baril, certainement. Or, vous voyez bien qu'il ne se passe absolument rien, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne changera rien à cette abondance de pétrole et de gaz qu'il y a dans le monde.
Alors, j'aimerais qu'on revienne... Oui, alors, rapidement, Thierry.
Oui, et effectivement, dans le gaz, avec la crise qui est en Ukraine, donc au bord de l'Europe, on voit le prix du gaz qui a baissé de 50% depuis le début de l'année, alors qu'effectivement, on a un problème avec un grand pays de transit gazier.
Alors, on va bien sûr développer les répercussions en termes de géopolitique de cette abondance d'énergie, que ce soit pétrole ou gaz. J'aimerais juste pour nos auditeurs, Samuel Furfari, redire que cette situation, elle n'est pas le fruit du hasard. Ce pétrole et ce gaz, ils étaient là. C'est le fruit d'une conjonction d'événements. Il y a la Convention du droit de la mer qui a ouvert d'immenses zones maritimes à la prospection. On l'a déjà abordé avec vous à propos du gaz en Méditerranée orientale. Il y a aussi donc l'explosion du gaz naturel, les investissements dans la prospection et la production pétrolière, et enfin donc l'extraordinaire révolution du gaz et du pétrole de schiste, ou plutôt de roche-mer. Et je vous pose là une question, Samuel Furfari. Vous réfutez le terme de gaz de schiste et de pétrole de schiste pour préférer gaz et pétrole de roche-mer. Cette distinction repose sur des connaissances scientifiques que je n'ai pas.
Mais c'est pas seulement une question scientifique, mais c'est une question beaucoup plus profonde. Tout d'abord, c'est vrai que ce n'est pas du schiste, c'est plutôt de la marne ou des argiles. C'est une mauvaise traduction du terme anglais. Mais surtout, j'aime cette notion de roche-mer parce que elle montre qu'en fait, c'est la roche dans laquelle s'est formé le pétrole et le gaz que nous utilisons. La roche-mer est l'endroit où il y a eu la création des hydrocarbures. Si la roche-mer avait la possibilité d'avoir un contact avec de la roche supérieure, le pétrole et le gaz se sont échappés, ont formé le gaz conventionnel et le pétrole conventionnel. Si elle n'a pas pu s'échapper parce que la roche est trop étanche, elle est toujours là. Ce qui signifie, c'est ça qui est la grosse surprise, c'est qu'en fait, partout où il y a du pétrole et du gaz conventionnel, en dessous, il y a des roches de roche-mer, il y a des gisements de roche-mer qui probablement contiennent encore du pétrole et du gaz. Donc il ne s'agit pas simplement d'une révolution qui nous conduit à avoir peut-être 50 ans plus de pétrole, mais peut-être plusieurs siècles de pétrole. C'est pour ça que c'est important de parler de roche-mer et pas de schiste, parce que ça montre le potentiel gigantesque qu'il y a dans le futur de la production de pétrole et de gaz.
Thierry Brosse.
Alors moi, je parle de gaz ou de pétrole non conventionnel, et pour le gaz, je rajoute aussi qu'il y a du gaz dans les mines de charbon, enfin du gaz de houille, et c'est cet ancien grisou qu'on arrive aussi aujourd'hui à extraire, c'est-à-dire qu'on laisse le charbon, mais on extrait ce gaz. Donc effectivement, pour faire simple, parlons de gaz non conventionnel ou de pétrole non conventionnel.
D'accord. Alors Samuel Furfari, je reviens à nouveau vers vous. Cette révolution, et en tout cas cette nouvelle donne énergétique, donc avec la production de gaz et de pétrole de roche-mer, vous dites... dans votre ouvrage que elle ne pouvait, cette nouvelle donne, se produire qu'aux États-Unis. Explication.
En effet, parce que les États-Unis sont un pays où d'abord on a toujours étudié la géologie de son propre sous-sol. En Europe, dans beaucoup de pays, depuis qu'on a fermé les charbonnages, on s'est dit il n'y a plus d'avenir dans le sous-sol et les services géologiques ont été fermés ou bien réduits à la portion congrue. C'est pas le cas aux États-Unis, ils ont toujours cru à leur sous-sol. Deuxièmement, celui qui possède une parcelle de terrain possède tout le sous-sol. Ce qui veut dire que si vous avez des vaches sur votre terrain et qu'un pétrolier vient vous dire, vous savez, vous avez du pétrole en dessous et vous allez gagner beaucoup plus qu'avec vos vaches, eh bien, il y a un intérêt immédiat de la part des propriétaires de terrain à devenir producteurs de pétrole et de gaz. C'est pour ça que partout aux États-Unis, on trouve des productions de pétrole et de gaz chez des petits producteurs. On a toujours l'impression que ce sont les grands lobbies, les grandes multinationales, mais c'est pas du tout ça, c'est exactement l'inverse. La révolution du gaz de Rochemer a été développé par des petites entreprises, des PME du pétrole et du gaz. Pourquoi ? Parce qu'il y a en plus aux États-Unis une qualité des forages extraordinaire. C'est un peuple de foreurs. Tout ce qu'on doit au développement du pétrole, ça vient des États-Unis. Il y a toujours eu une recherche très forte dans le domaine du forage qui fait que, voilà, quand on met tout ça ensemble, on arrive à cette surprise qui ne pouvait naître qu'aux États-Unis. Celui à qui on doit tout cela, c'est George Mitchell. C'était une petite entreprise pétrolière du Texas, une PME du pétrole, qui s'est entêtée pour développer cette technique de la fracturation hydraulique et qui est parvenue à adapter la fracturation hydraulique qu'on emploie dans le monde. On entend dire tellement de bêtises sur cette fracturation hydraulique. Il faut savoir que la fracturation hydraulique est très vieille et utilisée partout dans le monde pétrolier et gazier. Mitchell l'a adaptée tout simplement à la condition du gaz de Rochemer. Et c'est lui qui, après une vingtaine d'années d'efforts, avec des investissements propres, sans un dollar de subsides, est parvenu à développer la technologie. Donc c'est à la fois un ensemble de situations tout à fait différentes et uniques au monde, mais également la détermination de développer des technologies qui a conduit à cette révolution.
Donc ça a démarré aux États-Unis, Samuel Furfaré nous l'a bien expliqué. Cette technologie, il va sans dire, Thierry Bros, qu'elle fait des émules. Alors j'aimerais comprendre quelle est la stratégie des grands producteurs de pétrole, et puis pas seulement eux, les grands et anciens, mais il y a évidemment des nouveaux. Je pense, alors la Russie n'est pas nouvelle sur l'échiquier énergétique, bien évidemment, mais quelle est la stratégie de la Russie par rapport à cela, quelle est la stratégie de la Chine, et puis on parlera également de l'Afrique. Thierry Bros.
Oui, alors je rajouterais juste un élément pour ce qu'a évoqué Samuel Furfaré, c'est que le réseau de gazoducs aux États-Unis est complètement régulé. Donc effectivement, tout petit producteur peut en plus utiliser le réseau et amener sa production vers le consommateur, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans certains autres pays. Alors pour ce qui est de la Russie, d'abord on peut quand même évoquer le fait que les Russes se sont laissés déborder sur la révolution du gaz de schiste. Gazprom, qui a le monopole d'exportation du gaz russe vers l'Europe, n'a pas cru à ça et n'y croit toujours pas beaucoup d'ailleurs. Alors effectivement, donc les Russes n'ont pas du tout mis d'argent là-dedans et n'ont pas d'investissement sur ces projets-là. Alors par contre, ce qui est assez intéressant, je reviens de Russie, c'est que pour ce qui est du pétrole non conventionnel, là, les Russes y croient. Et en plus, ils ont une formation dans un sous-sol au milieu de la Russie, le champ de Bazanov. Et là, effectivement, on commence à voir des investissements et on commence à voir des sociétés russes, et en particulier Gazprom Neft, la filiale de Gazprom dans le pétrole, qui souhaitent produire ce pétrole non conventionnel. Et encore une fois, là, on a un avantage, c'est que ce bassin-là est un peu un bassin identique à celui qu'on peut trouver dans le Montana aux États-Unis. Donc, on connaît la technologie. Et en plus, ce bassin-là est parcouru par des pipes pétroliers. Et donc, effectivement, vous pouvez mettre cette production directement dans les pipes et l'envoyer vers les consommateurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément pour la Chine, serait un grand pays au niveau de la réserve en gaz de schiste, en gaz non conventionnel. Le problème de ces techniques, c'est qu'il faut faire de la fracturation et que la fracturation de réservoir se fait pour le moment avec de l'eau. Or, la Chine est un pays qui manque d'eau. Et donc, effectivement, les Chinois sont dans une position un peu difficile puisqu'ils savent qu'ils ont cette ressource, mais ils n'ont pas les moyens de la produire de façon commerciale. il faut trouver d'autres techniques. Et pour le moment, effectivement, c'est la problématique des autorités chinoises. Les autorités chinoises veulent aller vers de plus en plus de gaz dans leur mix énergétique, ne serait-ce que pour réduire la pollution dans les grandes villes, donc supprimer le charbon, passer au gaz. Mais effectivement, pour le moment, ce gaz-là, c'est un gaz qui est étranger, c'est un gaz qui est importé, c'est un gaz qui demain sera russe, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et qui sera peut-être après-demain d'Afrique. Mais pour le moment, c'est du gaz chinois conventionnel pour une partie, mais pas de gaz chinois non conventionnel.
Alors, Thierry Bros évoquait l'importance de l'eau, Samuel Furfari, dans l'exploitation donc de ce gaz et de ce pétrole de roche-mer. Quelques mots sur l'Europe. Nous en avons de l'eau.
Oui, on a de l'eau, on a de la roche-mer aussi dans certains endroits. On a aussi une population qui est opposée à quoi qu'on fasse. C'est un peu ça la grosse difficulté de l'Union européenne. Je crois qu'on est arrivé en 2 ans, ou maximum 3 ans, à un niveau d'opposition en matière de gaz de roche-mer équivalent au niveau d'opposition en matière de nucléaire. Le nucléaire, ça a pris une génération. En 3 ans, on est parvenu à convaincre la population que c'est dégoûtant de produire du gaz de roche-mer. Avec une telle mentalité, évidemment, ça va être difficile d'être optimiste en Europe. Je crois que, pour l'instant, il faut rester modeste. Il n'y aura pas grand-chose qui va se passer en Europe. La solution viendra peut-être de la Pologne et du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on y croit. Cameron est très favorable à cela. L'ensemble de la population au Royaume-Uni semble intéressée. Quadrilia, qui est une entreprise qui développe la technologie, est en train de préparer un projet à Blackpool. Il semblerait qu'il y ait dans ce bassin 70 années de consommation de gaz britannique. Et donc, si c'est vrai, peut-être que les autres suivront. Mais pour l'instant, il faut d'abord convaincre les populations que la production de gaz de roche-mer et de pétrole de roche-mer ne pollue pas, ce qui est loin d'être gagné. Non pas parce que ça pollue, mais parce que la population, elle croit, dur comme fer, que c'est mauvais.
Thierry Bros.
Oui, alors effectivement, les deux pays à regarder, c'est la Pologne et le Royaume-Uni. Alors sur la Pologne, effectivement, il y avait une volonté politique de le faire pour essayer d'être moins dépendant du gaz russe. Le problème de la Pologne, c'est pour le moment, la Pologne n'avait pas jusqu'à présent de législation pétrolière et gazière. Donc c'est un peu compliqué de savoir combien on va payer de taxes. Et je vous rappelle que dans le pétrole et dans le gaz, on paye beaucoup de taxes aux États. Le deuxième élément en Pologne, c'est un problème de géologie. La géologie en Pologne pétrole et gaz non conventionnel est beaucoup plus compliqué qu'aux États-Unis. Et donc, effectivement, une copie pure et simple de la technologie américaine ne marche pas en Pologne, comme on l'a vu. Deuxième pays, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Samuel Furfari, c'est le Royaume-Uni. Je rajouterai un élément sur le Royaume-Uni. Je pense que le Royaume-Uni, les politiques y sont favorables parce que, encore une fois, pour un problème de taxes, avec le déclin de la production pétrolière et gazière conventionnelle, Sa Majesté, le gouvernement de Sa Majesté et donc les impôts que Sa Majesté collecte sont plus faibles aujourd'hui parce qu'il y a moins de production pétrolière et gazière conventionnelle. Et donc, il y a 2 solutions au Royaume-Uni. Soit on va augmenter les impôts de tout le monde, soit effectivement, on essaye d'avoir de la production non conventionnelle que l'on peut taxer et qui peut rentrer dans le budget de l'économie britannique.
Et au-delà de ça, Samuel Furfari, je me tourne vers vous. 1 minute pour terminer cette première partie d'émission. Il y a aussi des questions économiques qu'évoquait à l'instant Thierry Bros, mais je pense notamment à des contrats, en particulier gaziers, qui ont été signés et qui courent jusqu'à 10 ou 20 ans à partir de maintenant et qui n'ont pas du tout envie de voir une concurrence se faire sur l'exploitation du gaz ou du pétrole de roche-mer. Je me trompe ?
Non, vous avez tout à fait raison. Lorsqu'en 2005... il fallait renouveler les contrats gaziers qui avaient été signés dans les années 70. Faut rappeler quand même à nos auditeurs qu'il y a plus de 35 ans que nous importons massivement du gaz de Russie. C'est vieux, l'importation du gaz de Russie. Personne ne s'en est jamais plaint. C'est maintenant pour des questions géopolitiques que l'on en parle. Mais sinon, depuis très longtemps, la France, l'Allemagne, l'Italie se chauffent avec du gaz russe. Quand ces contrats arrivaient presque à terme, il a fallu les renouveler parce que tout le monde était content. Il n'y avait aucun problème avec l'approvisionnement gazier russe.
Donc ils ont été renouvelés, pardonnez-moi, je vous interromps, Samuel Furfari, je vous reposerai la question pour redémarrer la deuxième partie de l'émission, parce que nous arrivons au terme de cette première partie.
Très
géopolitique,
bien.
Nous retrouvons nos invités Samuel Furfari et Thierry Bros dans quelques instants. À tout de suite.